Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Frédéric Lantieri et moi, l'histoire de Tony Meillon, la mauvaise rencontre de Laetitia. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit par Guillaume Maury, réalisé par Bernard Farou. Bonne écoute.
L'affaire est sur le point d'être renvoyée devant les assises quand elle connaît un rebondissement sidérant.
On est au mois d'août et je reçois sur mon téléphone portable un coup de fil de la brigade de gendarmerie de Saint-Nazaire, la brigade de recherche, qui me dit « Nous vous avisons que nous venons de placer en garde à vue Gilles Patron ». Je crois d'abord à un canular. Je crois un canular parce que Gilles Patron, c'est celui que j'ai accompagné 6 mois plus tôt à l'Élysée. Il est, je crois, à ce moment-là, le champion, entre guillemets, des victimes de France. Il porte la parole de ces victimes de criminels. Le placer en garde à vue, brutalement, me paraît totalement impossible.
Pascal Rouillet rejoint aussitôt Gilles Patron. Deux amis de Jessica viennent en effet de déposer plainte contre lui, pour geste impudique. Mais l'homme nie, alors son avocat reste confiant.
Il est très en colère, d'ailleurs, Gilles Patron, d'être à cet endroit-là, à la brigade de Saint-Nazaire. Et alors que l'entretien se déroule dans des conditions tout à fait normales, et qu'il répond aux questions qui lui sont posées, pour contester ces gestes qu'on lui prête, l'enquêteur reçoit devant nous un coup de téléphone de ses collègues de la brigade de Pornic, là où, depuis le matin, Jessica est entendue.
Jessica, la sœur jumelle de Laetitia.
Et je vois l'enquêteur se raidir, blanchir. Il apprend devant nous, au téléphone, que Jessica, pour la première fois, vient de porter des accusations de viol contre Gilles Patron.
Le père d'accueil modèle, accusé de viol.
Anne-Hélène Dorisson, journaliste à Presse Océan.
Coup de tonnerre, on apprend que Gilles Patron est mis en examen, qu'il est placé en détention provisoire. Et alors là, tout le monde est complètement sidéré, parce que tout le monde se rappelle aussi cet homme en train de prendre la parole sur le parvis du palais de justice de Nantes pour dénoncer des récidivistes sexuels. Là, c'est vraiment un séisme total, quoi.
À ce moment-là, Gilles Patron passe de la première victime de France, peut-être, à celui que l'on va médiatiquement détesté.
Si Jessica parle, c'est parce que la veille, deux de ses copines ont osé briser le silence. Et la jumelle raconte.
Maître Cécile de Oliveira, avocate de Jessica Perret.
Il abuse d'elle depuis le tout début de son adolescence, fréquemment, avec une emprise terrible, qui fait que Jessica s'interdit de parler, pensant probablement que remettre en cause tout son univers sera une nouvelle violence, et pensant aussi que Gilles Patron est un homme tout-puissant et que personne ne la croira si elle dénonce les abus sexuels dont elle est victime.
Et ce ne sont pas deux ni trois plaintes qui tombent brutalement sur le bureau des gendarmes. D'autres arrivent encore. Au total, Gilles Patron doit se défendre de 6 accusations.
S'agissant de Jessica, il admet donc une relation adultère avec elle qui a commencé aux 18 ans de la jeune fille. Il conteste tout geste à caractère sexuel sur Jessica avant ses 18 ans.
Ondine Millot, journaliste à Libération.
Donc il choisit une période voilà, où ce n'est plus pénalement punissable. Pour les autres, il expliquera qu'il s'agit de mensonges, de vengeance. C'était des jeunes filles aguicheuses le provoquaient de manière sexuelle. Alors elle parle d'enfants qui avaient 11 ans à l'époque. Hein.
Et ce n'est pas fini. Car le dossier connaît encore un nouveau coup de tonnerre. Quand Laura, l'une des accusatrices de Gilles Patron, dévoile un secret qu'elle tiendrait de Laetitia.
Elle s'est confiée auprès de sa camarade Laura pour lui dire qu'elle avait été abusée sexuellement par Gilles Patron.
Les fameuses lettres de Laetitia, ces mots désespérés, voilà qu'ils prendraient maintenant un nouveau sens. Mais il n'existe aucune preuve. Et l'avocat de Gilles Patron le répète.
Quand la statue tombe et que du représentant des victimes de France, il se retrouve placé en garde à vue et accusé de faits graves de viol, à ce moment-là, on nourrit les fantasmes. À ce moment-là, bien évidemment, certains ont imaginé tout de manière totalement irrationnel, et pendant l'enquête, il y a eu assez régulièrement, ici ou là, une copine de Laetitia, tel avocat de tel parti, qui laissait imaginer que peut-être. Il n'en est rien, jamais Gilles Patron ne s'est vu reprocher quoi que ce soit sur Laetitia, on ne l'a même pas mise en examen pour cela.
Monsieur Perret, vous apprenez que Gilles Patron aurait abusé de vos filles.
Oui. De Jessica. Après, Laetitia, je ne sais pas. Parce qu'on n'a pas pu prouver qu'il y a eu un viol sur Laetitia. On était déjà dans la douleur par rapport à Laetitia. Nous voilà, on nous remet une couche. On vous redonne encore un petit peu plus. On était... Mais c'est incroyable.
J'ai l'impression que ça ne va jamais s'arrêter.
Non. Non.
C'est un homme que vous connaissiez bien, Gilles Patron ?
Non. Je n'ai jamais eu confiance à cet homme-là, parce que quand je téléphonais à mes filles, c'est que il y avait toujours quelqu'un derrière le téléphone pour écouter la conversation qu'il y avait entre moi et mes enfants.
Comment vous le saviez, ça ?
Je le ressentais.
Il était là quand vous alliez les voir ?
Tout le temps. Et je le disais à chaque fois au conseil général. Je me suis plaint et fait rond. Vraiment, au conseil, je dis, hein, voilà, monsieur Gilles Patron, il prend trop de place. Il veut trop approprier mes filles. Non, vous en faites pas, monsieur Perrin, nanana.
Après la disparition de Laetitia, est-ce que vous avez suivi l'affaire ensemble ?
Non, c'est lui qui ne disait pas ce qu'il savait par rapport à l'enquête. Nous, on le savait à chaque fois par les journalistes. À chaque fois, on était... il y a ça qui s'est passé par rapport aux journalistes. On savait par rapport tout le temps aux journalistes. À chaque fois, on était mis à l'écart. On nous prenait pour la famille. Ça a été très dur pour nous. On était la famille biologique. Et biologique, pour moi, c'est pas compatible avec moi. Je suis pas biologique, je suis le vrai papa de Laetitia, de Jessica.
Monsieur Cantero, l'affaire Gilles Patron donne-t-elle des clés pour comprendre un peu toutes les arcanes de cette affaire ? Est-ce que ça explique pourquoi, par exemple, Laetitia prenait des risques, pourquoi elle suivait un homme qu'elle ne connaissait pas, par exemple ?
Je ne pense pas qu'on puisse faire vraiment, vraiment le lien. Lorsque Laetitia suit Tony Meillon toute cette après-midi et cette soirée, il y a deux choses qui se passent, il y a deux phénomènes qui se conjuguent. C'est sa fragilité. Laetitia est une fille fragile, qui a une histoire douloureuse et qui est quand même quelqu'un de renfermé, d'assez soumise à l'autorité. Et lui, Monsieur Meillon, est quelqu'un d'extrêmement autoritaire. Quand il sait ce qu'il veut, il y met tous les moyens. Et ce soir-là, cet après-midi-là, il fera preuve de beaucoup d'autorité, de beaucoup de volonté pour obtenir que Laetitia passe la soirée avec elle. Et en même temps, alors pourquoi elle le suit aussi ? Un autre phénomène, à mon avis, qui s'est ajouté à ça, c'est que Laetitia, à ce moment-là, elle commence à s'émanciper. Laetitia, c'est quelqu'un qui commence à devenir vraiment adulte et elle commence à avoir des velléités de prendre son indépendance, de rester le soir un peu plus tard et se détache peu à peu aussi de sa famille d'accueil. Donc il y a cette conjugaison des deux éléments.
À la fin de l'instruction, quelle est la position de Meillon ? Est-ce qu'il maintient toujours la version de l'accident, par exemple ?
Oui, l'accident, voilà, c'est purement accidentel.
Il nie toujours les actes de démembrement.
Complètement. Il invoque une amnésie. Il nous dit, je me réveille avec du sang autour de moi et je vois des sacs poubelles autour de moi, je ne sais plus du tout ce qui s'est passé. Voilà.
Il est renvoyé pourquoi ?
enlèvement et séquestration suivi de mort. En récidive légale.
Et pour viol ?
Pas pour viol, non.
Parce que quand même, oui. elle a dit à un ami qu'elle avait été violée, et puis on a retrouvé des traces de liquide prostatique dans sa gorge.
Alors, ce dont on est sûr, c'est qu'effectivement, il y a eu au moins un rapport sexuel, une fellation. Ça, et d'ailleurs, il le dira lui-même qu'il y a eu une fellation, pas plus. Mais on ne sait pas s'il n'y a pas eu autre chose. Alors, je crois que le juge d'instruction, comme le parquet d'ailleurs, préfère conserver ce qui est souffre d'aucune discussion parce que ça résulte d'éléments concrets et d'ailleurs qui fait encourir à M. Millon déjà le maximum légal.
Tony Millon a 33 ans lorsque son procès s'ouvre à Nantes le 22 mai 2013. Il a déjà passé la moitié de sa vie en prison et c'est la troisième fois qu'il se retrouve devant une cour d'assises.
Un procès hors norme. 110 journalistes accrédités, une dizaine de parties civiles, 50 témoins et un accusé sous haute surveillance.
Julia, la sœur de Tony Millon.
Quand je l'ai vu, il m'a fait peur. Là, il m'a fait peur. Là, je me suis dit, mon frère, en si peu de temps, je pense qu'il a bien eu le temps de faire mûrir toute la colère qu'il avait en lui.
Ondine Millot, journaliste à Libération.
Il s'est fait un look. Je pense qu'on ne pouvait pas volontairement se rendre plus terrifiant ou en tout cas plus caricaturalement méchant. Quoi. On sent qu'il a voulu coller à la caricature du démon.
Maître Benoît Poquet, avocat de Franck Perret.
On découvre Tony Millon dans un grand survêtement noir, assez mal habillé, les cheveux tirés, lissés, le visage très blanc, très lisse. Et surtout, on découvre une personnalité extrêmement cynique.
Anne-Hélène Dorisson, journaliste à Presse Océan.
On savait de lui qu'il avait un côté mégalo, on savait qu'il était très égocentré et on comprend en effet dans son attitude qu'il va avoir envie de parler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il arrive d'ailleurs au procès avec des carnets de notes, il ne va jamais les quitter. Il va demander plusieurs fois à son avocat de se taire, avocat qu'il va souvent appeler son assistant.
Maître Pascal Rouillé, avocat de la famille d'accueil de Laetitia Perret.
On est dans un show permanent. Ça veut dire, par exemple, au premier jour du procès, au moment de sélectionner les jurés, il explique à son avocat, devant son avocat, que c'est lui qui va les sélectionner. Alors que ça n'arrive jamais.
Depuis son box, Tony Millon interpelle témoins, experts avocats, par provocation.
Maître Cécile de Oliveira, avocate de Jessica Perret.
Dans la vie de Tony Millon, la question qui lui tient à cœur, mais physiquement, c'est de tester son pouvoir sur l'autre. Presque d'une façon animale, c'est-à-dire essayer de voir s'il peut dominer, jusqu'où il peut dominer, et avoir l'autre à sa merci. Il est hallucinant de toute puissance.
Tel un metteur en scène, Tony Millon monte un show. Au deuxième jour du procès, il offre à ses spectateurs un rebondissement et une scène scandaleuse. Millon signe un nouveau scénario, celui d'un crime.
Il a eu une grande jouissance à raconter la scène de la mise à mort de Laetitia, scène dans laquelle il présentait Laetitia dans des position sexuelle qu'il a quasiment mimé devant la cour d'assises. C'était scandaleusement ignoble. C'était vraiment obscène et violent en même temps.
Il va avoir cette phrase en disant « J'ai fait n'importe quoi, c'est du n'importe quoi, c'est du grand Tony Millon ». Comme une marque un peu déposée, comme un certificat de criminalité. Et on voit à ce moment-là qu'il est spectateur de sa propre cruauté et finalement nous donne et nous renseigne sur la très haute estime qu'il a de lui-même à ce moment-là, de sa position d'accusé dans un box en verre d'une cour d'assises. Chassé le naturel, il revient au galop. On a là le vrai Tony Millon.
Maître Ben Brahim, lors de ce procès, c'est la première fois que Meillon parle de crime. Il a même mimé une mise à mort de façon assez obscène. Est-ce que vous connaissiez cette version des faits ?
Oui, je connaissais cette version des faits, parce qu'effectivement, elle était... on en avait parlé ensemble. Je ne pense pas qu'en ce qui le concerne, il s'agit d'une mise à mort. Je pense que ce qu'il explique, c'est avec ses mots, peut-être pas toujours bien choisis ou pas toujours bien calibrés, mais avec ses mots, ce qui s'est passé. Et pour lui, à ce moment-là, ça reste tout de même tout cela la suite d'un accident. Et c'est pour ça que moi, je réfute totalement cette idée de mise à mort.
Alors c'est quoi, si ce n'est pas une mise à mort ?
Si ce n'est pas une mise à mort, eh bien écoutez, c'est un décès dans des conditions dramatiques. Monsieur Meillon a toujours dit que dès le départ, il pensait que Laetitia était morte. Et qu'en réalité, après, il dit que c'est un maquillage pour faire croire au crime d'un rôdeur. Et lui, lorsqu'il s'en prend au cadavre, il pense qu'elle est déjà décédée depuis un certain temps.
Votre client est décrit comme un homme hallucinant de toute puissance, mégalo, égocentré. Comment en est-il arrivé là ?
Bah écoutez, monsieur Meillon est quelqu'un qui a eu quand même une vie extrêmement... difficile, qui n'est pas une vie banale, puisque c'est un jeune enfant, ses parents vont se séparer, il est très attaché à son père va s'en aller, un beau-père va arriver, avec lequel la relation sera extrêmement difficile, dont il dira que le père le maltraitait, l'agressait physiquement, et puis assez rapidement tout de même, le nouveau couple formé par sa mère et son beau-père veulent s'en débarrasser, le mettre en foyer. Il va aller en foyer, ça se passe mal, il va essayer de fuguer, il va essayer des petits vols. Et ce que nous disent également le premier dans le foyer dans lequel il va servir de souffre-douleur. Et par contre, il va bien évidemment s'adapter, s'endurcir pour devenir ce qu'il est.
Et comment il rentre dans la délinquance ?
Il rentre dans la délinquance en allant dans des foyers. Et c'est là qu'il va apprendre avec des petits camarades à voler des voitures, à voler ceci, à voler cela. Et après, vous allez en prison. Puis en prison, vous rencontrez d'autres personnes qui élargissent le cercle de ce que vous pouvez connaître pour commettre d'autres délits. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'il va rentrer dans ce cercle-là.
Et il en veut vraiment à sa mère ?
Oui, il est assez déterminé sur cet aspect-là. Je pense que véritablement, il y a une réelle souffrance. Là-dessous, il y a une réelle souffrance. Il y a une réelle souffrance de son vécu en tant que jeune enfant, en tant que jeune adolescent.
Journal télévisé du 24 mai 2013.
Pendant près d'une heure et demie, la cour d'assises a entendu la mère de Tony Meillon, une petite femme de 58 ans qui peine à trouver ses mots entre deux sanglots.
Il parle de son enfance comme si nous, on était coupables, en fait, de ce qui s'est passé. Je trouve que c'est trop facile d'accuser la mère, les parents. Le beau-père, puisqu'elle l'entend parler aussi. C'est qu'on n'aurait rien fait pour lui. On n'aurait jamais rien fait pour lui. Or que ça n'a pas été le cas.
À la barre, la mère explique qu'elle n'a jamais rejeté son fils. S'il a connu le foyer, c'est parce qu'elle n'arrivait plus à le tenir. À l'adolescence, ce fut l'escalade.
Tout le monde l'a soutenu à un moment donné. Tout le monde lui a dit « Tony, t'arrêtes de faire des bêtises, t'arrêtes tes conneries ».
Il est devenu incontrôlable, passant du larcin au braquage violent, comme en 2003 dans ce bureau de poste.
Il me promettait. Et puis, à chaque fois, il y retombait, mais pour plus gros. C'était à chaque fois pareil. Tous les jours, je me pose la question. Pourquoi ? Pourquoi t'en es arrivé là ? Pourquoi ?
D'heure en heure, la cour d'assises s'enfonce dans un monde fait d'adultes brisés par des enfances tragiques. Laetitia, Jessica, mais aussi Tony Meillon. Tony Meillon est cop de la perpétuité avec 22 ans de sûreté assorti d'une rétention de sûreté, la peine la plus lourde en France. Il accueille le verdict par un merci et un léger sourire pour faire appel dans la foulée. Pour son second procès, Meillon promet un coup de théâtre. Il va enfin révéler le nom de Monsieur X, le découpeur.
Thank you. soir.
Comme dans les bonnes séries nouvelles saisons, Tony Meillon arrive avec un nouveau look. Les cheveux rasés, costume pour le premier jour.
Et au niveau de la voix, il a une voix douce. Très vite, il parle de sa conversion à la religion musulmane. Très vite, il parle de paix intérieure qu'il a trouvée. Et on a un repenti, presque un sage, quoi.
C'est quelqu'un qui a travaillé son image, qui veut paraître autrement et qui veut manifestement donner une autre version de lui-même, en tout cas de sa personnalité.
Toujours metteur en scène de son procès, Tony Meillon promet dès le début un nouveau coup de théâtre.
Le nouveau Tony Meillon est arrivé et le nouveau Tony Meillon vous propose de le considérer comme un homme honorable qui va se situer dans la vérité. Et il vous propose de vous dévoiler l'identité de Monsieur X.
Enfin, Tony Meillon admet que Laetitia a été découpée. Mais ce n'est pas lui qui a fait le sale boulot. C'est un de ses copains. La défense cite donc ce Monsieur X à la barre.
On sait qu'on est en train de vivre peut-être le moment où le procès peut basculer. Et Monsieur X, pour ne pas le nommer, va arriver de manière très détendue, très calme, très sereine.
Qui va nous dire qu'il n'est évidemment pas ce Monsieur X, qu'il n'a rien à voir avec tout ça, que d'ailleurs les enquêteurs ont vérifié les choses, son emploi du temps, sa téléphonie, et qu'il n'était pas là.
Monsieur X convainc la cour d'assises, il n'a pas été le découpeur de Tony Meillon.
Et on sent que Tony Meillon avait tellement attendu ce moment, il l'avait sans doute préparé, il ne se déroule pas comme il l'aurait souhaité, et là, Tony Meillon va s'agacer.
Tony Meillon craque, tape dans le box des accusés, fait trembler d'ailleurs un peu toute la cour d'assises et fait sursauter toutes les personnes qui étaient présentes dans l'assistance, obligeant d'ailleurs l'escorte qui le gardait à lui sauter un peu dessus et à le maîtriser.
Il refusera de comparaître devant la cour d'assises le lendemain, le vendredi, pour bien faire ressentir qu'il est mécontent que son alibi du découpage n'ait pas pu être retenu.
Tout prouve que Tony Meillon a démembré lui-même le cadavre de Laetitia. Mais il ne l'admettra jamais.
Le découpage, il ne le raconte pas parce que ça lui fait trop peur de le raconter. Tony Meillon a dit qu'il avait été, à un moment, effrayé parce que les dents de Laetitia avaient claqué au moment du découpage à la scie de sa tête. Et le médecin légiste a confirmé que cette hypothèse était possible. Ce moment-là est un moment où Tony Meillon a dû être terrifié. C'est le moment où il a dû perdre son contrôle. Et quand Tony Meillon est fragilisé, il se met dans une position de déni.
Monsieur Cantero, vous êtes avocat général à ce dernier procès. Ce détail morbide, les dents qui claquent au moment du démembrement, comment l'a-t-on appris ?
C'est au cours d'un transfèrement, une présentation de M. Meillon au juge d'instruction à Nantes, où il va raconter ensuite, dans le chemin du retour, aux gendarmes qui d'ailleurs consigneront toutes ces déclarations, eh bien, raconte que le détail où il entendait les dents claquer au moment où il découpait sa tête avec la scie.
Les experts ont cherché une explication à ce démembrement. Vous en avez une très prosaïque.
Ah oui. Oui, pour moi, c'est se débarrasser du témoin principal et du corps, de toutes les preuves possibles pour échapper à la justice. Sa compagne nous a dit qu'il avait un dicton « pas vu, pas pris, pas puni ». C'était son dicton.
Dans votre réquisitoire, vous dites que Tony Meillon est dangereux, que Laetitia était sans doute la première d'une série à venir. Qu'est-ce qui vous fait penser que c'est...
Sans doute non, mais la question peut se poser. parce que depuis 1995, quand même, chaque expert qui s'était penché sur la personnalité de Tony Meillon ont relevé la dangerosité d'un point de vue à la fois criminologique, mais aussi psychiatrique. Et surtout, arrive à ce moment-là une obsession chez lui, c'est l'association de ses relations avec les femmes, le sexe et la mort. Plusieurs femmes de son entourage nous raconteront des anecdotes où, à un moment, parce qu'elle se refuse à lui, une amie refuse des attouchements qu'il s'apprête à lui faire, eh bien, il fonce avec sa voiture en menaçant d'un accident de voiture. Une autre amie nous dit, comme on s'est disputé, il a sorti son couteau et a voulu m'égorger, enfin, me menaçait de m'égorger. Donc, vous voyez, il y a, dans ses rapports aux femmes, l'apparition, à ce moment-là, depuis plusieurs mois, de l'association mort sexe.
Quelle peine demandez-vous ?
Je demande la réclusion criminelle à perpétuité avec 22 ans de période de sûreté, le maximum encouru.
Vous demandez aussi une mesure de rétention de sûreté à l'issue de la peine, c'est ça ?
Je demande la rétention de sûreté comme elle avait été demandée aussi en première instance pour éliminer tout risque. Tout risque qu'un jour M. Meillon puisse recommettre des faits graves.
Maître Ben Brahim, à ce procès, votre objectif, c'est de réduire la peine de Tony Meillon. Comment comptez-vous faire ?
J'estime que la prononcer une peine de perpétuité me semblait normale. Ensuite, une peine de sûreté me semblait également opportune. Mais j'étais contre l'idée de la rétention de sûreté.
Qu'est-ce que ça change pour votre client ?
Eh bien, vous faites votre peine quand vous devez la faire, la perpétuité plus la peine de sûreté, et puis vous avez l'espoir de sortir un jour, l'espoir de redevenir un humain parmi les autres humains. Et cette rétention de sûreté permet de l'empêcher, puisqu'effectivement cela veut dire qu'à la fin de toutes ces peines-là, tous les ans, un comité se réunira pour dire s'il estime que vous pouvez présenter encore une dangerosité suffisante pour vous garder en détention. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, jusqu'à votre décès. Et cette peine ne semblait pas correspondre à ce que allait devenir M. Meillon.
Voyez-vous une différence entre le Meillon du premier procès et le Meillon du deuxième procès ?
Incontestablement. Il y a, de sa part, une réflexion. Il y a, de sa part, une maturation. Il se pose beaucoup de questions. Beaucoup de questions qu'il me dit avoir intégré grâce au premier procès. Le fait qu'il soit, par exemple, évident que la jeune femme ne soit pas décédée suite à l'accident, il en est convaincu après le premier procès. Il réfléchit à tout cela, puis il exprime également des regrets. Des regrets qui, on peut en penser ce qu'on veut, mais qui semblent sincères.
Il reconnaît une participation plus active, en fait.
Tout à fait.
Et le démembrement ? Il finit par reconnaître l'avoir fait ou pas ?
Non. Jusqu'au bout, il va indiquer que ce n'est pas lui qui a procédé au démembrement, que c'est quelqu'un qui est venu à son aide sur ce point-là.
Après 10 jours d'audience, les derniers mots sont pour l'accusé. Tony Meillon déclare « J'ai commis l'irréparable, il faudra vivre avec » et lâche une ultime provocation.
Anne-Hélène Dorisson, journaliste à Presse Océan.
Je vous ai dit la vérité, et cette vérité, je la raconterai dans un livre. Et il ajoute, s'il est publié, je reverserai les bénéfices aux parties civiles et à la famille.
Maître Cécile de Oliveira, avocate de Jessica Perret.
Tony Meillon reste un grand mégalomane et qu'il utilise le temps de la parole à l'accusé, donné après la plaidoirie de la défense, pour parler de ce qui l'intéresse le plus, c'est-à-dire de lui-même, et de se proposer comme écrivain. C'est absolument indécent.
Après 3h30 de délibéré, Tony Meillon écope de la réclusion criminelle à perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté, mais sans rétention de sûreté.
Maître Fatih Ben Brahim, avocat de Tony Meillon.
La rétention était l'un des objectifs principaux pour lesquels nous avions fait cet appel. Et il m'a dit qu'effectivement, donc il était tout à fait satisfait de voir qu'une décision plus équitable était rendue.
La perpétuité pour Meillon, la désolation pour sa famille.
Malgré ce qu'il a fait, je suis une maman. C'est dur. C'est dur. Parce que c'est dur pour moi, pour ma famille. J'ai toute ma famille qui est engloutie.
Monsieur Perret, deux procès, deux condamnations à perpétuité.
Oui.
C'est la fin de votre calvaire?
Non, ce n'est pas la fin de mon calvaire, parce que Laetitia n'est pas reconnue décédée.
C'est-à-dire?
J'ai un certificat d'inhumé. J'ai un certificat de où c'est qu'elle est enterrée, Laetitia. Par la mairie, où c'est qu'elle est. Là, ça veut dire sa tombe. Et j'ai un certificat de naissance, incroyable, depuis 6 ans.
C'est vous n'avez pas de certificat de décès?
Je n'ai pas de certificat de décès depuis 6 ans.
Et ça change quoi pour vous, ça?
Eh bien, ça veut dire que Laetitia est toujours vivante, au niveau administratif. Ça veut dire au niveau de la mairie, au niveau des impôts, au niveau de la sécurité sociale, au niveau du compte. Ça veut dire que son compte est toujours ouvert. Laetitia n'est pas reconnue décédée. Au bout de 6 ans, je suis obligé d'encore d'aller dans un nouveau tribunal. Que ma fille soit, qu'on me donne un certificat de décès, je rejugé pour avoir un certificat de décès. C'est incroyable.
Gilles Patron a été condamné en mars 2014 à 8 ans de prison pour viol et agression sexuelle sur 5 mineurs, dont Jessica, la sœur de Laetitia.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé, consacré à Tony Meillon, la mauvaise rencontre de Laetitia. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes. Un sursaut, un instant où le destin bifurque dans une direction ou dans l'autre.
Sur le coup, je pensais pas qu'il était mort parce que je voyais pas de sang, on voyait rien quoi en fait. Sébastien s'est jeté sur son père.
L'affaire Grégory, l'affaire Daval, l'affaire Cahuzac... Vous les connaissez toutes, ça fait 40 ans que je vous raconte ces destins brisés. Aujourd'hui, dans l'instant où, découvrez les confessions de ceux qui sont au cœur de ces affaires. Ils me racontent et vous racontent ce qu'ils ne pourront jamais oublier.
L'instant où, un podcast BFM TV raconté par Dominique Rizet.